Vous écoutez, on lit pour vous.
Les droits de la personne, 75 ans plus tard, des garanties menacées. Un texte d'Alfonso Insuasti Rodriguez, traduit par Alexandre Dubé-Belzile, paru le 22 février 2024 dans L'Esprit libre. Cet article a été publié par nos partenaires de Colombie, la revue Calivando. Au fil des ans, les garanties prétendument fournies par l'ONU se sont grandement dégradées. En effet, il est inquiétant de constater que l'organisation semble dépassée, en plus d'être contrôlée par des pays puissants et subordonnée aux impératifs d'un capital vorace qui marchandise tout. L'année 2023 a marqué le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, un document fondateur pour le monde occidental. Or, il est impératif de s'interroger sur la portée qu'il a de nos jours. Cette déclaration soi-disant universelle met de l'avant une conception de l'être humain inséparable des concepts de justice et de dignité. Elle est née des cendres de l'Holocauste nazi. Évidemment, comme humanité, nous répudions ce génocide. Néanmoins, et malheureusement, lorsque nous sommes aujourd'hui confrontés à des actes similaires, perpétrés contre le peuple palestinien, nous semblons en être peu indignés. Ce manque d'indignation est une caractéristique patente de la crise actuelle. La Déclaration universelle des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, ONU, est la pierre angulaire de la fondation de l'ONU en 1945, organisation dont la noble visée était de promouvoir la paix, la coopération entre les pays et la protection des droits fondamentaux. La protection des droits de l'homme, essentielle à l'ONU, est compromise par son incapacité à relever des défis fondamentaux. Les massacres qui ont lieu impunément en Palestine, par exemple, sont la preuve de son impuissance. Trois quarts de siècle après la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'heure est à la réflexion et à l'action collective pour que la vie et la dignité soient universellement respectées. L'humanité est confrontée à d'énormes défis, tels que l'accroissement des inégalités dans le monde et l'effondrement du climat, que les Nations unies semblent incapables de relever efficacement. Selon Oxfam, le 1% des plus riches ont accumulé 63% de la richesse produite dans le monde en 2020. Il ne s'agit pas d'un accident, mais le résultat d'efforts concertés et de coercition. Cela constitue en soi un échec retentissant des idéaux de l'ONU, d'un monde fondé sur le droit qui respecte la justice sociale et environnementale. Selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, et les récentes déclarations d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, la planète entame un effondrement climatique et il a déclaré sans mâcher ses mots « Nous avons déclenché l'enfer ». Soulignant que les objectifs de l'accord de Paris sur le climat sont encore loin d'être atteints et l'inefficacité des 28 COP qui ont déjà eu lieu. Il s'agit là d'un autre grand échec de ces organisations à faire respecter les droits de la personne. Le récent rapport sur l'état d'avancement des objectifs de développement durable, ODD, édition spéciale, montre que plus de la moitié du monde accuse des retards, que les progrès sur plus de la moitié des objectifs sont faibles et insuffisants et que, pour un tiers d'entre eux, on observe une stagnation ou même une régression. Or, ce sont des objectifs qui concernent des sujets essentiels tels que la pauvreté, la faim et le climat. Si nous n'agissons pas maintenant, l'agenda 2030 pourrait devenir l'épitaphe d'un monde qui aurait pu être. Dans tous les cas, le rapport indique qu'il pourrait s'agir d'une promesse en péril. Les efforts déployés à ce jour à l'échelle mondiale ont été insuffisants pour obtenir le changement dont nous avons besoin, mettant en péril cet engagement pour les générations actuelles et futures. L'étude intitulée « Hunger Hotspots, Warning of Acute Food Insecurity » est particulièrement intéressante. L'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, y souligne que les conflits, les conditions climatiques extrêmes, la crise économique, la dette publique excessive, les effets de la pandémie de COVID-19 et les répercussions de la guerre en Ukraine plongent des millions de personnes dans la pauvreté et la faim aux quatre coins de la planète. Oxfam prévient également que 700 millions de personnes dans le monde pourraient être déplacées en raison de graves pénuries d'eau d'ici 2030. Pendant ce temps, la population mondiale de réfugiés et de personnes déplacées dépasse les 110 millions de personnes et continue d'augmenter. La nécessité d'aider les personnes qui ont été forcées de tout quitter pour sauver leur vie s'accroît, et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés qui leur fournit un accompagnement et un soutien ne dispose pas de ressources suffisantes pour répondre à l'ampleur des besoins. Rien ne change en ce qui concerne les droits de l'enfant. Quelques 400 millions d'enfants, soit environ 20 % de la population mondiale, vivent dans des zones de conflit ou les fuient. Le Comité des droits de l'enfant souligne aussi le degré des brutalités perpétrées à Gaza. Il faut indéniablement en faire plus pour défendre les droits des enfants dans un monde de plus en plus menacé par les conflits, l'appauvrissement et les répercussions de la crise climatique. En 2023, l'ONU a fonctionné avec un déficit de 650 millions de dollars et l'année 2024 ne s'annonce pas mieux, selon le chef de l'agence, qui indique que les conflits sont la principale cause de fuite des populations, tandis que les investissements visant à accroître la capacité de guerre et de destruction des pays puissants augmentent de manière exorbitante. La méfiance croissante et la désinformation s'ajoutent à ce sombre tableau. Les médias polarisent la société et paralysent les communautés. La science est attaquée et les mesures de sauvetage économique pour les plus vulnérables arrivent trop lentement ou n'arrivent pas du tout, sous la forme d'un crédit qui étouffe les gens et leurs générations futures. La discrimination raciale et ethnique reste un problème dans de nombreux pays, avec une discrimination et une violence systématiques fondées sur la race ou l'appartenance ethnique. La liberté d'expression est soumise à des restrictions. Les journalistes, les militants et les détracteurs du gouvernement faisant l'objet de menaces, d'arrestations, de censure et même d'élimination physique. La répression politique gagne du terrain dans le monde entier alors que l'Occident s'obstine à entraîner le monde dans de nouvelles guerres. L'Ukraine, la bande du Sahel en Afrique, le déploiement d'armes de destruction massive dans le Pacifique, de nouveaux territoires de tension et d'intérêts géopolitiques particuliers. Enfin, pour terminer cette année 2023, nous assistons à un génocide télévisé. Israël, les États-Unis et l'Europe se rapprochent dans leur dessein destructeur et irrationnel, générant des souffrances extrêmes, sans que les États garants des droits ne prennent une position forte pour empêcher cette tragédie. Les droits de la personne, le droit international humanitaire, le monde fondé sur des règles, le concept d'État et, somme toute, les fondements de la modernité ne semble plus avoir de sens au regard de toute cette barbarie effrontée. Non seulement des milliers d'êtres humains qui n'ont rien à voir avec le conflit sont anéantis, mais tout un peuple et toute une culture menacent d'être détruits, sans parler des survivants, survivantes, qui sont affamés et contraints, contraintes, de vivre dans des conditions sanitaires déplorables. Un rapport récent prédit une famine sans précédent à Gaza si le conflit se poursuit. Il ne s'agit de rien de moins qu'une attaque contre l'humanité, mais il est difficile de reconnaître cette réalité sans d'abord reconnaître les espoirs de transformation qui animent les peuples. L'Amérique latine, sa diversité et ses peuples en fournissent de nombreux exemples. L'ère des peuples est arrivée. Il est temps que, de l'Amérique latine, émergent, dans toute leur diversité, des luttes conscientes pour la défense de l'eau, des coutumes, de la vie et du territoire. L'anniversaire de ses 75 ans doit marquer le début de quelque chose de différent et de cohérent dans la recherche d'un monde plus juste et plus équitable. Nous sommes peut-être la dernière génération qui a encore la possibilité de transformer les relations que nous entretenons les uns avec les autres pour qu'elles se développent dans le respect, l'équité et la dignité. La survie de la vie et de l'espèce humaine sur la planète en dépend. C'était « Les droits de la personne, 75 ans plus tard, des garanties menacées », un texte d'Alfonso Insuasti Rodriguez, traduit par Alexandre Dubé-Belzil, paru le 22 février 2024 dans L'Esprit libre.
IKEA, militant anti-taxe sur les biens d'occasion. Un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 6 avril 2024 dans La Presse. Que ce soit au Village des Valeurs ou dans une petite friperie de quartier, on paie la TPS et la TVQ sur les biens d'occasion qu'on achète. IKEA, qui vend aussi des produits de seconde main, juge que ces taxes sont un problème et invite le gouvernement à changer les règles du jeu. Le géant suédois des meubles à assembler s'est transformé en militant anti-taxe. Il a même mis en ligne une pétition sur le site change.org. Nous souhaitons que les gouvernements fédéral et provinciaux envisagent d'éliminer la taxe sur les articles de seconde main partout au Canada. Samedi 5 avril 2024, plus de 1 400 personnes l'avaient signé. IKEA affirme que son but est d'aider les Canadiens à faire des achats circulaires à moindre coût. Le détaillant espère que d'autres entreprises, ayant les mêmes préoccupations que lui, se joindront au mouvement pour mettre fin à la double taxe. En réalité, elle est parfois triple, voire quadruple. Rien n'empêche qu'un bien soit revendu à maintes reprises, ce qui génère chaque fois de nouveaux revenus pour l'État. Un autre volet de la campagne se déploie dans les magasins IKEA de l'Ontario où l'on rembourse désormais la TASM, c'est-à-dire la taxe sur les articles de seconde main. Vous n'êtes pas mal informé? Cette taxe n'existe pas. C'est une invention pour attirer l'attention des clients sur le fait que les produits d'occasion sont taxés. Concrètement, les clients ontariens paient la TVH, la taxe de vente harmonisée qui combine la TPS et la taxe de vente provinciale, de 13 % et ils ont ensuite droit au remboursement de la TASM de 13 % Bref, ça s'annule. IKEA m'a expliqué qu'il avait choisi de tester sa formule en Ontario pour maximiser l'impact. Cette province est son plus important marché au pays. C'était un choix logique, m'a écrit la porte-parole Lisa Huy. De plus, l'utilisation de la TVH par l'Ontario offrait un moyen simple de sensibiliser la population à cette question fiscale qui prête à confusion. Il est prévu que le remboursement de la TASM soit un jour étendu aux autres provinces. Difficile de savoir jusqu'à quel point les consommateurs sont embrouillés au sujet des taxes et frustrés de les payer. Mais il est clair que le manque d'uniformité entre les commerces suscite bien des questions. Les boutiques Renaissance facturent-elles les taxes de vente? Non. Le Village des Valeurs? Si. Les règles diffèrent en fonction du statut des commerces. Au Québec, les organismes de bienfaisance n'ont pas à percevoir la TPS ou la TVQ, contrairement aux entreprises à but lucratif. La propriétaire d'une friperie m'a déjà raconté qu'elle incluait les taxes dans ses prix pour donner l'impression à ses clients de ne pas les payer, car elle en avait marre des questions à ce sujet. Bien sûr, la campagne d'IKEA, aussi sincère soit-elle, s'avère un coup marketing qui lui permet de rappeler que ses magasins proposent, depuis 2019, des meubles d'occasion qu'elle rachète de ses clients. Mais c'est aussi une occasion de réfléchir aux mesures qui pourraient être mises en place pour favoriser une consommation plus responsable. L'idée d'IKEA mérite peut-être réflexion, mais encore faudrait-il savoir si l'abolition des taxes exercerait une réelle influence sur les ventes d'articles de petite valeur, comme les vêtements et les jouets. Qui se prive d'un jean à 7 $ à cause de la taxe de 1,05 $? Personne, quand la solution de rechange est un jean neuf à 80 $. Sur les véhicules, c'est une autre histoire. L'abolition de la taxe aurait certainement un impact sur la demande, mais le gouvernement se priverait de revenus substantiels alors qu'il a besoin de les augmenter. En 2022, pas moins de 130 000 véhicules ont été vendus pour 1 $, une stratégie pour contourner les taxes. Les règles seront resserrées. À partir de 2025, il sera interdit de vendre un véhicule de moins de 15 ans pour un seul petit huard, ce qui doit rapporter 255 millions en taxes au bout de 5 ans. L'inflation, la hausse du coût de la vie et les changements climatiques ont déjà propulsé la popularité des achats de seconde main. Un autre phénomène a fait tomber les barrières. Les jeunes ne sont plus gênés de porter des vêtements usagés, c'est bien vu. Il suffit de voir le nombre de milléniaux qui fouillent dans les friperies rue Saint-Denis à Montréal pour s'en convaincre. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les ventes de Renaissance ont bondi de 21% l'an dernier pour atteindre 77 millions de dollars. Ce n'est pas pour rien que des détaillants comme Souris Mini, H&M et Sale ont flairé la bonne affaire et qu'ils se donnent des airs de friperie avec leur plateforme de vente de produits d'occasion. Chez IKEA, la popularité de son programme « Revendez-les » a bondi de 36% l'an dernier. Il existe d'autres moyens que l'abolition des taxes pour favoriser une consommation plus verte. Mon préféré? Les bonus de réparation de la France, tant pour les électroménagers que les vêtements et les chaussures. Le remplacement d'un bout de talon usé donne automatiquement droit à un rabais de 7 €, 10 $. Le cordonnier se fait rembourser par un fonds alimenté par les entreprises qui mettent les vêtements et les chaussures en marché. Le grand mérite de cette idée est d'être aussi bonne pour la planète que pour l'économie. C'était IKEA, militant anti-taxe sur les biens d'occasion, un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 6 avril 2024 dans la presse.
Le prof de science est revenu. Un texte de Patrick Lagacé, paru le 21 avril 2024 dans la presse. En août 2001, Sébastien Ouellet a commencé à faire ce qu'il aime le plus faire au monde, enseigner. Il s'en souvient, c'était le cours Physique 534. 16 ans plus tard, la vie, qui peut être vache, l'a jeté dans la sécheuse pour un grand cycle de terreur, cancer. C'était en 2017. Sébastien Ouellet avait 47 ans. Cancer de la prostate, agressif. Métastase, traitement tout aussi agressif et débilitant. L'enseignant a pris un congé de maladie. « Ça a fait exploser ma vie, me dit-il. Un vrai cauchemar. Tout ce que tu vois au bout du tunnel, c'est tes enfants. Le congé de maladie a duré 7 ans. Sébastien est revenu au travail au début du mois d'avril 2024. La maladie, elle, est encore en lui, assommée par la médication. Le 2 avril 2024, Sébastien Ouellette a donc remis les pieds à l'école secondaire du Mistral de Montjoly, son école. Son école, oui, mais le temps avait passé. Des collègues avaient pris leur retraite, changé d'école, de job. Quel accueil lui réserverait-on? Le prof Ouellette avait donc enfilé une petite armure invisible. J'avais mis mes émotions au neutre, j'avais fermé le breaker. Je voulais pas me faire de fausses joies. Mais en mettant le pied dans l'école, ça a été comme si je me réveillais d'un cauchemar. Mes anciens collègues m'ont accueilli à bras ouverts. Ils étaient contents, chaleureux. Ça m'a tellement fait chaud au cœur. Retour progressif pour la première semaine. Pas d'enseignement, préparation et acclimatation. Ce 2 avril 2024, Sébastien est allé dans un labo, dans son élément. Par les fenêtres, il a vu le fleuve. C'est con, Sébastien a grandi avec le fleuve. Il vient de Saint-Gabriel dans le Mont-Joli métropolitain. Il a toujours vu le fleuve. Mais ce matin-là, il l'a remarqué. Des labos, on a une super belle vue du fleuve. J'avais jamais vraiment pris le temps de m'arrêter à cette vue. Je l'ai regardée pendant 2 minutes. Le ciel était bleu. J'ai pris le temps de savourer cette beauté-là, chose que je ne faisais jamais avant. J'ai ressenti une ivresse. C'est bien hot que je fasse ce travail-là. Il y a une petite pause, une nanoseconde, pendant laquelle j'anticipe exactement ce que Sébastien Ouellette finit par me dire, parce qu'ils disent tout ça, à peu de choses près, ceux qui ont fixé la mort dans les yeux. Tu savoures tellement la vie après. Il n'y a rien qui est pareil. Il y a la vie avant, puis la vie après. C'est Sophie Gagné qui m'a écrit pour que je parle du nouveau prof de sciences de son fils, Thomas Carbonneau. Elle m'a rapporté que le prof en question, elle n'avait que le prénom, Sébastien, avait raconté son cancer, son absence de 7 ans. Puis qu'après, il avait captivé les jeunes par son approche, ses anecdotes de science et de vie. J'ai retrouvé le prof. Sébastien Ouellette était suspicieux. Il ne trouvait pas qu'il y avait grand-chose à raconter. J'ai donné un cours comme je le fais toujours. Je le sentais sur ses gardes. Je me sentais un peu con avec mes questions, mais on a commencé à jaser. Et voilà. Ça donne cette chronique sur le ciel qui, des fois, redevient bleu. Parlez-moi de l'enseignement, Sébastien. Un enseignant, sa job, dit-il, c'est d'allumer des lumières. Je dis tout le temps, donnez-moi une crêpe et un tableau. C'est tout ce dont j'ai besoin pour faire ma job. Il a d'ailleurs convaincu ses jeunes, en cette dernière ligne droite d'année scolaire, de prendre des notes avec un crayon sur du papier. Je leur dis que ça va les aider au cégep, à l'université. On retient mieux la matière quand on l'écrit à la main. Et les jeunes ont embarqué, ils prennent des notes à la main. Parlant de notes manuscrites, le 2 avril 2024, jour de son retour, une ancienne élève devenue prof, Amélie Simard, lui a présenté une pile de papier. Ses notes du tout premier cours de physique que Sébastien avait donné en 2001. Il a braillé comme un enfant. Nous avons fini par passer au « tu ». Et j'ai dit à Sébastien, « Parle-moi de ton cours « Sciences et technologies de secondaire 3 ». On voit de la physique, de la chimie. C'est beaucoup axé sur l'anatomie. Il y a de la techno aussi. Tu sais, c'est important, la techno. C'est concret. Tu vas chercher une autre clientèle d'élèves qui sont moins faits pour être assis sur une chaise. Tu te ramasses à l'atelier Puis eux autres, ce sont des bêtes. On fait de l'ingénierie dans le fond. C'est important de leur allumer des lumières dans la tête, eux autres aussi. Je dis toujours, tu feras pas voler un poisson. Il y en a qui sont faits pour voler, d'autres pour nager. Faut pas que le cadre soit trop strict. On arrive à l'atelier, ça bouge, je suis obligée de les ralentir. Il insiste pour me raconter une anecdote à propos d'allumer des lumières dans la tête des élèves pour montrer qu'on ne sait jamais ce que cette lumière va éclairer. Fin 2017, me dit-il, la chimio avait tué son système immunitaire. Il a dû passer une semaine en isolement à l'hôpital de Rimouski, seul, dans une chambre, faible et en souffrance. L'infirmière qu'il soignait s'appelait Marie-Josée Mignot, une de ses anciennes élèves en anatomie. C'est comme si la vie me rendait le travail que j'avais fait. Après l'entrevue, Sébastien m'a contacté pour que je mentionne ici trois personnes qui l'ont aidé à passer à travers ces 7 années de misère. Les médecins, Vincent Fradet et Marie-Claude Duchesne, et son ex-blonde, Nancy L'Italien. Parle-moi de ton premier cours, Sébastien. Comme si j'enfilais mes vieilles pantoufles. Même mes vieilles jokes plates sont revenues. C'était un peu comme recommencer le vélo. Ça s'oublie pas. L'heure est passée en 60 secondes, on dirait. J'avais préparé trop de matière. Et j'ai raconté mon histoire aux jeunes. Ils ont accroché. Pause ici pour que je cite Sophie Gagné, la mère de Thomas Carbonneau, à propos de ce cours. Mon fils est revenu de l'école avec des étoiles dans les yeux. À la fin de la journée, c'est pas mêlant, Sébastien Ouellette ne voulait pas sortir d'école. Après 7 ans à souffrir, à penser mourir, il se sentait utile et vivant. Je me suis dit, si je suis pour vivre, si le ciel me donne encore quelques années, je ne vais pas regarder le plafond. J'ai décidé de revenir enseigner et ça a été le plus beau move que j'ai fait. Pourtant, y a-tu de quoi de plus banal que ça? Je rentre travailler. C'est comme si je me réveillais d'un long cauchemar. Je fais la plus belle job du monde. Je communique mon savoir. Je prépare les jeunes pour leur avenir. C'était « Le prof de science est revenu ». Un texte de Patrick Lagacé, paru le 21 avril 2024 dans La Presse.